Augustin Augier, bonjour.
Bonjour.
Oxygène for Africa, de l'oxygène pour l'Afrique. Pourquoi cette campagne aujourd'hui?
Cette campagne, parce qu'on sait que la meilleure façon pour les patients Covid-19 qui sont dans un état grave, qui ont besoin d'être hospitalisés, de survivre, de ne pas décéder de cette maladie, c'est d'avoir accès à ce qu'on appelle de l'oxygénothérapie, donc de leur donner de l'oxygène. Or, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont très peu, voire quasiment pas, équipés d'appareils permettant cette assistance respiratoire pour les patients graves.
Le risque, c'est qu'il y ait un taux de mortalité beaucoup plus élevé.
On peut craindre que là où il y a des systèmes de santé fragiles, il n'y ait pas la capacité d'hospitaliser tous les patients sévères, comme on a pu le faire dans le reste du monde. Donc il va falloir multiplier ces capacités hospitalières avec des médecins, des infirmiers, des médicaments et de l'oxygénothérapie.
Et combien vous faut-il pour réussir cette opération?
En fonction de ce que va être la courbe épidémique, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il faudra multiplier entre 5 à 20 le nombre de lits disponibles. Donc à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest et centrale, par exemple, ça représente plusieurs milliers de lits d'hospitalisation qui devront être développés dans les semaines qui viennent.
Le manque de respirateurs, ce n'est pas le seul problème que vous rencontrez. Quelles sont les autres difficultés auxquelles vous devez faire face sur le terrain?
On doit faire face à un grand nombre de difficultés. Quand il y avait une épidémie comme Ebola, sur laquelle Halima est beaucoup intervenue, en appui des ministères de la Santé, il y avait un élan de solidarité internationale. Solidarité des financements, solidarité de ressources humaines. Aujourd'hui, cette solidarité, elle n'est pas possible parce que les autres pays sont tous préoccupés à lutter eux-mêmes contre la maladie. Et puis, il y avait aussi une solidarité de matériel. On envoyait du matériel du monde entier pour aider les pays les plus touchés. Or, de la même façon, aujourd'hui, chaque pays achète le matériel pour lui parce qu'il en a besoin. Le plus offrant gagne, mais il n'y a pas une bonne solidarité pour que ce soit équitablement réparti en fonction de la réalité des besoins. Donc, du coup, tout est plus difficile. Et c'est encore plus difficile parce que, au-delà de ce manque de solidarité, il y a une difficulté à acheminer le matériel sur le terrain, puisqu'il n'y a plus d'aviation commerciale dans le monde entier. Et donc, pour envoyer du matériel, du coup, on n'est dépendant que d'avions cargo. Il y en a peu, et donc le matériel arrive trop tardivement.
Et pour le personnel?
Là aussi, la plupart des pays sont ouverts. Si jamais il y a des procédures qui permettent de s'assurer que le personnel médical qu'on envoie ne va pas venir contaminer, donc on va les mettre en quatorzaine, on va les tester avant qu'ils sortent, et après pourront venir aider leurs collègues. Et le problème, c'est d'arriver à les acheminer, donc de trouver des avions qui aujourd'hui n'existent pas.
Et dans les pays où vous intervenez aujourd'hui, quels sont les pays pour lesquels vous êtes le plus inquiet?
On est inquiet potentiellement pour tous nos pays d'intervention. Après, il y en a qui ont des systèmes de santé plus ou moins fragiles. Les pays, notamment par exemple, qui sont en conflit, ou les pays vraiment les plus pauvres, sont évidemment, c'est toujours la même chose, les épidémies touchent les personnes les plus vulnérables, les pays les plus fragiles. C'est là que nous sommes le plus inquiets.
Et en RDC, où vous avez travaillé sur Ebola, est-ce que les interventions pour la prévention et le traitement des patients Ebola peuvent vous servir pour la réponse à l'épidémie de Covid?
En RDC, qui a vu une épidémie d'Ebola pendant plus d'un an et demi, notamment à l'Est, dans la région du Nord Kivu, il y a des milliers de professionnels du ministère de la Santé, des ONG, qui sont formés pour contrôler les infections et les épidémies. Donc ça peut être un vrai atout pour lutter contre la maladie Covid. La difficulté, c'est qu'on pensait être sorti de l'épidémie d'Ebola. On a vu une résurgence de quelques cas. Et donc la somme des deux épidémies, pour le coup, peut être très problématique. Pour moi, il y a deux principales leçons additionnelles qu'on peut retirer d'Ebola. La première, c'est qu'il faut que ce soit la population locale, les autorités locales qui s'approprient la riposte. Il ne faut pas que ce soit des gens venus de l'extérieur qui aient les moyens et le pouvoir de lutter contre l'épidémie. Il faut une appropriation par la communauté. Et puis la deuxième leçon, c'est que pour venir à bout d'épidémies aussi importantes, on a besoin d'une solidarité construite pour la communauté, mais on a besoin d'aide extérieure, sinon on n'y arrive pas.
Comment les services de santé qui vont devoir traiter les cas de Covid-19 vont-ils pouvoir prendre en charge toutes les autres urgences, tous les autres besoins des populations?
Alors, on est très inquiet, évidemment, des conséquences indirectes du Covid sur la fragilisation des systèmes de santé. Et il ne faut pas s'occuper uniquement des cas de Covid. La malnutrition, le paludisme, les urgences obstétricales restent des sujets très importants. Et encore une fois, ce qui va se passer, c'est que le personnel de santé de première ligne, comme ça a été le cas dans la plupart des épidémies, dont Ebola, vont encore se comporter en héros, c'est-à-dire qu'ils vont prendre énormément de risques individuellement, en espérant qu'on arrive à leur esquisser le maximum de matériel de protection, mais il y aura toujours un risque pour eux. Et en plus, ils vont devoir gérer le fardeau habituel du système de santé, plus cette épidémie. Donc en fait, le poids de tout ça va peser une fois de plus sur le personnel de première ligne, les collègues médecins, infirmiers, aides-soignants, africains.
Augustin Augier, merci.
Merci à vous.